Thomas Liera, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai quitté lors d'un voyage dans le temps sur les routes du Tour de France et je vous retrouve à nouveau dans les couloirs du temps sur la plus belle place du monde, la Grand Place de Bruxelles, à l'occasion de la sortie aux éditions Hanspach, Tomegan 1930, scénario signé Patrick Weber et vous êtes responsable des dessins. Ouais. Alors, je me suis demandé, hasard ou coïncidence, vous êtes un féru d'histoire?
Faire une histoire, je dirais pas, mais vu que j'ai vécu pendant 20 ans en Italie, qui est quand même un bassin culturel très très fort, évidemment, passionné d'histoire de l'art, c'était assez facile de tomber là-dedans. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, puis moi, j'ai une grande passion pour tout ce qui est 1500, 1600 et shakespearien. Et du coup, j'ai un ami qui m'a dit, Thomas, il y a un projet sur les un peu costumé. Ben, j'ai même pas pensé deux fois.
Alors, Patrick avait déjà collaboré aux éditions Spac, au Stand 1905, Spa 1906, Bruxelles 43, Léopold 8 1960. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait une longueur d'avance dans la façon de procéder ou est-ce que votre collaboration s'apparente à celle que vous aviez avec Didier Ocula sur le Tour de France?
Pas vraiment parce que, en fait, au début, il y a eu un petit dialogue, mais Patrick, je crois qu'il est tellement entraîné, et c'est son job, quoi. Donc moi, il y a eu tout de suite une confiance qui s'est créée, et après je l'ai laissé faire, je suis pas rentré dans le truc. Je sais pas que j'ai commencé à apprendre et étudier la vie de Charles Quint pour comprendre comment Patrick allait écrire. Non. Patrick, il a fait son scénario, moi je suis parti directement dans le dessin.
Quelles sont ses spécificités?
Pour moi, c'est la justesse historique, même si on fait un roman. Et ça, c'est exactement la même attitude que j'ai pour mes dessins. Donc, la justesse historique que Patrick y cherche, moi, je la fais en dessin. Et du coup, le vrai costume de Charles Quint des années 30, il est sur la couve. Les armes, tout est parfait. Dans le sens que, pourquoi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps à chercher les images.
Le fil rouge, c'est une enquête policière à la Hercule Poirot, au Rouletabille. Ce complot relaté dans la BD, il est inspiré de faits réels?
Alors.
Notamment le pan, enfin, bon, oui, divulgué, mais.
Ouais, alors, en fait, j'ai l'impression que de la part de Patrick, il y a eu sûrement, genre, on n'en a pas parlé ensemble, hein. Enfin, au début, il y a eu un petit discours, mais il y a eu sûrement une envie de parler des vrais ennemis, mais l'empire de Charles Quint était tellement grand que les ennemis, il y en avait partout. Mm. Alors moi, j'ai écouté des podcasts Nota Bene français, j'en ai écouté tout plein, où effectivement, François Ier et le Soliman, qui était l'Ottoman qui régnait la piraterie dans la Méditerranée, c'est sûr que c'était le grand ennemi. C'est pour ça que j'ai mis un poignard ottoman sur la couve. Mais après, je crois qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient ce que lui cherchait. Après, c'est un mec qui est resté, je crois que il a eu 80% de sa vie à cheval en faisant des guerres. Du coup, quoi dire? C'était pas évident. Du coup, les ennemis, on l'avait partout.
L'album est coédité par Lomegan.
Ouais.
Est-ce que ça impliquait un droit de regard ou est-ce que on vous a laissé carte blanche?
Alors, on ne m'a imposé rien, mais mon attitude a un peu commerciale, on peut dire, de s'adapter et rentrer en profondeur dans chaque thème, donc le rugby, le Tour de France, le football, m'ont entraîné à mettre toujours les vrais costumes et les vrais détails. Et du coup, comme je vous ai raconté tantôt, la première chose que j'ai fait, j'étais au grand serment des arbalétriers à Bruxelles et j'ai tiré un arbalète. J'ai regardé leurs costumes, j'ai fait des photos et c'est comme ça que je me suis mis dedans, quoi.
Est-ce que ça change quelque chose de tirer l'arbalète, comme vous m'expliquez?
De tirer l'arbalète? Non, ça te fait comprendre que nous, dans notre génération, on est beaucoup plus faibles que ces hommes-là.
Ce qui est assez remarquable, c'est la justesse au niveau des uniformes, des costumes, les tenues des femmes, et même le café Métropole qu'on est en train de rénover complètement maintenant. Ouais. Il y a chaque fois des petites touches de réalisme, mais vraiment bien imprimées.
Alors ça, c'est souvent, c'était pas facile parce que j'ai, grâce à un ami de Gilly, un architecte qui est passionné d'architecture, si je peux le citer, Philippe Deleu, et bien sûr, j'ai eu vraiment des livres et plein d'informations sur les vrais. Qu'est-ce qu'était Bruxelles en 1549? Qu'est-ce qu'était Bruxelles en 1930? Et tout est en noir et blanc. Ou de temps en temps, tu as une toute petite phrase qu'on te dit que le costume de, il est, et en fait, tout est en noir et blanc. Donc ça, que ce soit l'architecture ou les costumes, c'était très complexe.
Je suppose qu'il y a quand même eu beaucoup de recherches en amont, non?
Énormément. Énormément. Moi,
plus que dans vos autres ouvrages?
Oui. Oui. Parce que ce n'était pas que l'architecture, c'était aussi les costumes. Mais souvent, moi, j'ai reçu, grâce à l'Homme Gang, j'ai reçu un peu de quelques bouquins, évidemment. Mais
les livres qui sont cités, vous les avez consultés?
J'ai eu la chance d'aller chez Cécile Arnoux, le musée de Albert Marinus, qui est le responsable du fait que l'Homme Gang a été refait dans les années 30. Du coup, l'historien, moi j'étais visité carrément son musée avec les éditions en SPAC, et là, j'ai touché le meuble sur lequel Marinus a écrit le numéro des costumes. Du coup, j'étais vraiment dans son studio à lui.
Ça, c'était et on voit la table.
Et on voit la table. Oui, la table, c'est la vraie table de Albert Marinus. Ça, c'est.
Grand Place est inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO depuis 1998. L'Homme Gang est au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de 2019. On n'a pas droit à l'erreur quand même, non?
Absolument pas. Après, moi, j'ai un très très grand respect du folklore en Belgique. En tant qu'Italien, et j'ai vécu quand même 20 ans en Italie où l'histoire est très forte, mais je trouve qu'en Belgique, on a plus de vérité sur plein de folklore. Donc, j'ai vécu le carnaval de Binche. J'ai vécu ici l'Homme Gang. Je vais y aller bientôt au mois de juillet. On peut pas se moquer de grandes familles qui viennent rendre hommage. Parce que quand tu rencontres le gamin d'un prince du Luxembourg qui arrive, il se dit, non, là, ici, moi, je suis content d'être là. Un gamin de 18 ans qui n'est pas intéressé par ça, il est content d'être là. Ça veut dire que c'est vrai. Et ça, c'est trop bien.
Parce que finalement, c'est vrai que ce n'est pas simplement du folklore bruxellois, mais finalement, le monde entier est friand de cet événement. C'est assez incroyable, avec des retombées internationales. Je crois qu'ils vont même à l'Expo Universelle d'Osaka. Oui. Tu as vécu?
Alors, ils m'ont demandé d'aller, mais sincèrement, le fait que je vais devoir dessiner des faucons pour les Émirats de cette année, ça va être déjà ce sera pas facile, mais non, j'aimerais bien, mais évidemment, je crois que ce sera un petit team qui va partir là-bas, mais s'ils m'invitent, moi j'y vais.
Alors, international, mais surtout national, et on cite souvent la devise « l'union fait la force ».
Ouais.
Ça, c'est finalement ça, cet événement a un côté fédérateur, non?
Absolument, moi je trouve que je l'ai vécu en tant que j'étais dans la presse en 2023. Pour prendre mes informations et j'ai fait plein de photos qui me servaient pour la BD, évidemment. En fait, j'ai vraiment senti cette force. Et désolé de dire, mais nous, les Belges, tout le monde nous aime bien. Hein. Du coup, pourquoi? Il y a des raisons. Donc, si on a ce sens de la fête, ce sens du folklore, qu'on arrive en plus à organiser avec une rigueur nordique, ben, c'est trop, trop bien.
Alors, l'ouvrage comprend, outre l'intrigue, un carnet didactique, avec notamment l'interview de Paul Legrand, qui dirige l'ASBL Homme Gang Brussels Events. Ouais. Une belle citation d'ailleurs, « Nous sommes des passeurs d'histoire ». Vous aussi, finalement, hein?
Ben oui, en fait, finalement, oui. C'est vrai que, je vous cache pas que quand je suis arrivé à Charleroi en 2010, je suis revenu chez moi, j'avais envie de parler de mon grand-père qui était mineur. Et puis je suis tombé dans le rugby, et puis je suis tombé dans le Tour de France, et puis tout le reste. Et du coup, oui, mais le problème, c'est que moi, je suis un fils d'émigré qui essaie de trouver le positif partout. Du coup, on est des témoins, mais voilà, moi, je peux que rendre hommage à tout ça.
Vous êtes passé
je sais pas si je répondais.
Vous êtes passé par la case Disney, vous êtes à Milan. Rétrospectivement, comment décrivez-vous l'expérience que vous avez vécue?
Alors chez Disney, il y avait une sélection à l'académie qu'ils ont là-bas. Et en fait, tu te retrouves devant le meilleur dessinateur d'Italie. Du coup, on était 14 et on est resté à 3. Ouais. Du coup, c'était pas mal. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé chez eux, ils m'ont carrément dit, Thomas, tu n'as pas le niveau, va étudier l'anatomie, on se revoit dans 6 mois. Oui. Et du coup, après, ils m'ont pris. Après, j'ai eu la chance de participer à la BD de la Reine des Neiges avec Max Narcisse, qui maintenant travaille à Los Angeles. Et lui aussi, le niveau de ses dessinateurs était tellement grand que je n'ai pu que être un apprenti qui a pris le positif et essayé de s'améliorer. Mais c'est clair que Disney, c'est les meilleurs dessinateurs.
Y a-t-il une façon de travailler que vous utilisez encore actuellement?
Par rapport à ce que j'ai appris chez Disney? Alors chez Disney, ça a été surtout la maîtrise technique du dessin, c'est-à-dire l'anatomie, comment la rendre vivante, comment rendre un personnage vivant et le mettre dans toutes les positions, parce que c'est ça qui est... Tout le monde sait dessiner en 3/4, mais pas beaucoup de gens savent dessiner avec la tête en haut ou en bas et avec un point de vue 360 degrés. Et du coup, oui, moi, Disney a été pour moi la plus grande école que j'ai eue, parce que c'est grâce à eux que j'ai appris à rendre vivant les choses.
Outre la BD, vous serez également tête d'affiche des festivités 2025 aux côtés de Phil Boxrow, donc le célèbre légiste. Il y a eu des noms prestigieux parmi les héros, donc Annie Cordy, Francis Huster, Balasco, Berléon. Quel sera votre rôle pendant deux jours? Donc c'est le 2 et le 4 juillet.
Ouais. Alors je suis l'invité dessinateur et je vais devoir faire des dessins en live. Qui seront publiés sur Facebook avec une allure de dessin de presse, on va dire. Du coup, je dois essayer de, avec un peu de humour, essayer de me moquer, mais un peu gentiment.
Plus caricature.
Plus caricature, évidemment, ouais. Où je vais dessiner. Oui. Et du coup, je sais pas. J'ai déjà, par exemple, à un moment, il y aura un lancer de faucon, un lancer de pigeon. Il y aura le faucon des Émirats qui le prend. Et oui. Et puis, évidemment, le faucon. À la fin, il dit, t'es qui, toi? Il se retourne et il y a l'aigle bicéphale de Charles Quint qui le regarde, quoi. Et après l'aigle bicéphale, on tourne la page et tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le vautour avec la tête de Philippe Boxeau qui arrive.
Voilà. Vous aviez déjà assisté aux festivités de l'an 2020?
En 2023, oui, j'étais invité pour prendre toutes mes références qui me servaient pour la BD.
Et là, donc, et c'est mis en place déjà en 2023?
Oui, en 2023, la BD, oui, on avait déjà commencé. Du coup, avec Nicolas Anspach, on a été là-bas et moi, j'étais tout en noir comme ceux qui vont dans la presse sur la Grand Place. Et là, j'étais complètement libre d'aller où je veux. Donc, j'ai tout vécu. J'ai tout vécu. C'était vraiment utile.
Qu'est-ce qui était le plus impressionnant lors de ces festivités en tant que témoin?
Ben pour moi c'est le garçon de 18 ans qui fils de je ne sais plus quel prince ou marquis qui me dit il était là sur son téléphone, donc moi je croyais qu'il y avait une petite ennui de sa part et en fait non, il était là, il y croyait, et donc voir que la jeunesse s'intéresse à cette fête, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu vois le grand passionné qui est là, il a 70 ans, il est là, il a éteint son épée, ça fait partie de son expérience en lui. Mais voir la jeunesse qui est intéressée par ça, ça a une valeur énorme pour moi.
Alors, dans vos projets, vous m'avez parlé de quelque chose d'un peu plus écologique, dirons-nous, chez Actes Sud. Ouais. Quelques mots?
Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Rob Hopkins, qui est le pionnier des villes en transition, donc Transition Network, c'est un mouvement, et un peu fatigué d'avoir des projets de commandes que j'ai adoré, évidemment, qui m'ont permis d'être ce que je suis aussi en tant que dessinateur. J'avais envie aussi de choisir mon parcours et de mettre un côté un peu utile, d'avoir un message, d'avoir un but. Et du coup, le fait de commencer un projet avec Rob, où on apprend à une petite commune comment changer, comment manger correctement, comment mettre son énergie solaire, c'était un truc important.
Vous êtes toujours professeur à la Haute École Albert Jacquin.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà, parmi vos élèves, décelé des futurs talents?
En fait, l'école, avec une autre qui, je ne me rappelle plus le nom, a Courtrai, je crois, c'est les deux meilleures écoles d'infographie. Du coup, avec les pointures qu'on a en tant que professeur, on a souvent, tous les ans, après sur 40 élèves, on a 4-5 qui excellent, mais oui, il y en a qui ont été travaillés pour Astérix Obélix, il y en a qui ont été travaillés pour les grands films américains, oui, et ça, c'est quand ils reviennent, ils te disent, monsieur Lera, merci pour ci, pour
c'est
ça.
C'est valorisant.
Oh oui, ça, c'est trop, trop bien. C'est bien.
Thomas, un grand merci. Donc, on rappelle, Homme et Gang 1930 oui. aux éditions Hanspach. Et alors, si on veut aller vous applaudir, c'est les 2 et les 4 juillet.
Les 2 et les 4 juillet, oui, en live. Ce sera le soir. Mais moi, je serai en dédicace aussi au Sablon, avec mon costume moyenâgeux, là, où je vais pas avoir chaud du tout, mais c'est pas grave. Mais non, ce sera avec un grand plaisir que je serai là-bas. Et ce sera, oui, le 2 et le 4 juillet. Et j'ai hâte d'être là parce que ça va être quand même intéressant d'être
de vivre ça comme ça
exactement ouais
et d'être privilégié.
Et ben oui, là parce que l'invité c'est moi, c'est un dessinateur et voilà, j'en reviens pas encore parce que moi je sais pas comment dire, je sens toujours que j'apprends, je me sens pas un grand artiste, je suis toujours un
allez toi.
Non mais je suis toujours comme ça et du coup je me dis allez, cette année ils m'ont invité donc c'est trop bien. C'est un honneur.
Un grand merci Thomas.
Merci.
Au revoir.